Chapitre 17. Dans la calme maison d'Auteuil, lorsqu'elle était désertée par ses joyeux amis, Molière poursuivait la formation de Michel. « Je veux t'enseigner tout ce que je sais. Je ne serai satisfait que le jour où tu m'auras dépassé. » Michel ébaucha une moue. « Vous dépassez ? La chose est impossible. » « N'oublie jamais qu'il te faut surtout observer tes semblables, toujours, voir leurs défauts, les imiter dans toutes leurs façons. » Un regard vaut 10 phrases, un soupir, un geste de la main. Donne du corps au rôle. Place-toi devant ce miroir, demanda-t-il. Imagine-toi grand seigneur, victorieux au retour d'une bataille. Tu dois vivre ton personnage. Michel respira profondément. En esprit, il se glissa dans la peau de Jules César, rentrant à Rome après quelques victoires, ses légionnaires l'acclamant. Il leva fièrement le menton et lança à Molière un regard froid et orgueilleux de conquérant. « Parfait. À présent, te voilà paysan illettré, un peu roublard. Tu lutines la femme du voisin. » Le bruit d'un carrosse pénétrant dans la cour les interrompit. Molière pesta tout bas. « Fichtre, ne peut-on travailler tranquillement? N'est-ce pas Lully? Oui, et il n'est pas seul. Ce gentilhomme, on dirait monsieur Darvieux. Qui est-ce ? » demanda Michel. « Un grand voyageur. » À peine descendus de voiture, Lully les embrassa et raconta dans son langage teinté d'accent italien « Giambattiste, le roi souhaite nous commander une pièce mêlée de chant et de danse. »« Une comédie-ballet ? Parfait. Et quel thème désire-t-il que nous abordions ?»« Il veut une turquerie, » expliqua M. Darvieux. « Les œuvres qui s'inspirent de l'Orient sont fortes à la mode depuis que l'ambassadeur du Grand Turc a rencontré Louis XIV. » Comme j'ai vécu en Turquie, Sa Majesté pense que je saurais vous donner quelques détails sur les coutumes de ce pays. » Molière et Lully, en quelques semaines, inventèrent le personnage de M. Jourdain, un bourgeois ridicule qui rêve de devenir noble. « M. Jourdain désire par-dessus tout un gendre gentilhomme, » expliqua Molière à Michel. « Seulement sa fille aime un jeune homme qui ne l'est pas. » « Je ne vois point de Turquie là-dedans. » « Attends !» Pour épouser l'élu de son cœur, l'amoureux se déguise en fils du grand Turc. « Il vient demander la fille de M. Jourdain en mariage, » raconta Lully. « Le bourgeois est comblé d'une telle alliance, d'autant que le grand Turc veut le faire mamamouchi en titre de noblesse turque. Les jeunes gens se marient, et là, je prévois une musique entraînante turque et un ballet turc avec des costumes. « Turc !» conclut Michel en riant. « Nous l'appellerons le bourgeois gentilhomme, » reprit Molière. « J'interpréterai M. Jourdain. Toi, Michel, tu seras Dorante. Un conte qui abuse de la crédulité de ce pauvre nigo. » Les répétitions amusèrent beaucoup les acteurs. Armande, pour une fois, ne fut que gaieté, et Molière en parut ravi. Les quiproquos, les valets exotiques, les pitreries du ridicule Monsieur Jourdain, tout dans le bourgeois présageait un succès. Pour l'occasion, Molière fit coudre de somptueux costumes qu'il paya de sa poche. Le roi, devant rembourser tous les frais, il décida de voir les choses en grand. Cela plut beaucoup aux comédiens qui d'ordinaire achetaient eux-mêmes leurs costumes de scène dont ils étaient responsables. Tout s'annonçait pour le mieux. Après 3 jours d'un voyage épuisant, la troupe arriva au château de Chambord où Louis XIV entendait divertir ses invités durant la saison de chasse. Le temps de monter les décors et les comédiens donnèrent leur représentation. Dès le lever du rideau, les courtisans se mirent à rire aux pitreries et aux dialogues savoureux, mais remarquant que Louis XIV demeurait impassible, et s'empressèrent de l'imiter. Les jeux de mots, les répliques les plus comiques, tout tomba à plat. La pièce se termina dans un désastreux silence, entrecoupé de médiocres applaudissements. « Que s'est-il passé ? » s'inquiéta Michel. « Cette pièce est pourtant un chef-d'œuvre de drôlerie. »« Nous avons sûrement déplu au roi, » répondit Molière d'une voix angoissée. « Je ne sais pourquoi. Je n'ose aller le voir pour le lui demander. Je me retire dans ma chambre car je crains le pire. » « S'il te plaît, cours te renseigner pour moi auprès des courtisans. » Le jeune homme parcourut les jardins, suivit les invités, écouta. Hélas, tous critiquaient la représentation. Un homme richement habillé, portant une épée d'or au côté, eut l'audace de dire à son voisin avec force ricanement « Molière nous prend assurément pour des grues. Il croit nous divertir avec de telles pauvretés. » Michel, abasourdi par ce commentaire désobligeant, intervint. « Cette turquerie était fort réussie. » Jamais Molière n'a écrit texte plus comique. Les dialogues. Plaît-il ? Le coupa l'individu d'un ton hautain. Je vous trouve bien insolent à me contredire. Michel retint son souffle. Voilà qu'il venait de courroucer un noble. Mais l'individu, petit et fort laid, observa le comédien d'un œil intéressé. Je ne vous connais pas.
Ah, mais si, vous êtes le comte d'Orande de la pièce.
Je me nomme baron, monsieur.
Eh bien, expliquez-moi. Que votre chef a-t-il voulu dire par ces grotesques blabla balachou?
C'est du faux turc, monsieur.
Fi, se moqua-t-il, du faux turc? Molière devrait s'en tenir au vrai français. Dieu, quelle sottise!
Et il tourna les talons. Le jeune homme déconcerté s'enquit auprès d'un autre courtisan.
Qui est-ce?
Eh bien, le duc d'Enghien, le fils aîné du prince de Condé, le cousin du roi.
Le pauvre Molière, blessé par les nouvelles que lui rapportait son protégé, s'écria affolé. J'ai investi 50 000 livres dans ce spectacle. Si le roi ne me les rembourse pas, je serai ruiné en plus d'être disgracié.
Qu'en pense Lully?
Il se cache, patron, comme vous.
Pourtant, alors que Molière se croyait perdu, Louis XIV demanda à revoir la pièce 2 jours plus tard. Les comédiens anxieux rejouèrent devant des spectateurs de nouveau muets. Soudain, le roi lâcha un rire. Tous les regards se fixèrent sur son visage. Puis il s'exclafa franchement. Alors quelques dames osèrent pousser, la main devant la bouche, bientôt suivies par quelques messieurs. À la fin du spectacle, Louis XIV riait aux larmes et les courtisans se tenaient les côtes. La troupe du roi avait gagné. Michel se jeta dans les bras de son maître.
« Je savais que ce serait un triomphe. Il ne pouvait pas en être autrement. C'est votre meilleure œuvre. »
Dès la fin de la pièce, le souverain les appela. « Je ne vous ai pas parlé à la première représentation car j'ai craint d'être influencé par la beauté des costumes et des décors. Mais en vérité, vous n'avez encore rien fait qui m'ait plus diverti. Votre pièce est excellente. » Et comme le roi était satisfait, les courtisans à l'unisson s'empressèrent de couvrir la troupe de louanges. Après un fastueux repas, Michel, en se promenant dans les jardins, croisa de nouveau le duc d'Enghien.
« Ce Molière est inimitable, » disait-il à un ami.
Le jeune homme esquissa un sourire devant tant d'hypocrisie.
« Pourtant, monsieur le duc, » lui lança-t-il, « vous parliez voilà peu de grotesques balaba balachou. »
Le duc lui rendit son sourire.
« Disons que comme sa majesté j'ai pris goût à la grande langue turque. Il est des pièces que l'on doit entendre une seconde fois si l'on veut en apprécier la finesse. »
Aucun des deux n'était dupe. Mais Enghien tout à coup prit Michel par le bras pour marcher avec lui.
« Je vous ai beaucoup aimé dans votre rôle de Dorante, » le complimenta-t-il.
« Je ne vous connais pas, monsieur, et pourtant je me targue de fréquenter bon nombre de comédiens. Êtes-vous depuis peu à Paris ?»«
Voilà 6 mois, je jouais encore en province. »
Le duc, ce qu'il est, regarda de ses yeux globuleux l'acteur si beau. Après un nouveau sourire, il demanda «
Je serais fort satisfait de vous revoir. Votre sincérité change des conversations convenues de ce pays-ci. » « Seriez-vous disposé à me donner la comédie dans mon hôtel particulier un de ces soirs ?»
Michel s'étonna de cette invitation, mais il en fut si flatté qu'il accepta bientôt.
« Certainement, monsieur. Votre jour sera le mien, » répondit-il en se courbant dans une révérence.
Le duc le releva en riant. « Point de flatterie entre nous. Je vous contacterai sous peu, » lui promit-il avant de s'éloigner. Mais le lendemain, le fils du prince de Condé quittait la cour avec sa suite sans l'avoir revu.
Michel, un peu déçu, en prit son parti. « Bah, soupira-t-il, à quoi m'attendais-je? Il a dû oublier mon existence dès qu'il a tourné le dos. »
Pourtant, ce soir-là, un valet vint lui remettre un petit paquet. Il fut surpris de découvrir une magnifique bague enchâssée d'un rubis. Un mot, très court, l'accompagnait. « Passez chez moi dès votre retour à Paris. »
« Eux ».